monde.
Religion du monde, Francine Quentin.
L'urbanisation et le développement de l'éducation n'ont pas entraîné la disparition de la sorcellerie et de la magie, ni des moyens mis en œuvre pour s'en protéger. Pour certains spécialistes, la croyance en la sorcellerie et le recours à la magie que l'on observe sur tous les continents seraient la réponse à la mondialisation et à la marchandisation de la société, une façon de réenchanter le monde. Pour d'autres, sorcellerie et magie ne disparaissent jamais complètement, mais resurgissent de manière plus intense dans des périodes de difficultés et de changements sociaux brutaux. Les pratiques occultes permettraient donc de rechercher une solution aux problèmes du quotidien et d'apaiser la crainte du lendemain. Le dernier numéro des Cahiers d'études africaines est consacré à l'actualité de la sorcellerie en Afrique et dans les pays d'émigration. Il semble que la transposition du phénomène sorcier et des pratiques magiques dans les grandes villes est bien le signe de son incroyable capacité d'adaptation à la modernité. Maria Teixeira est anthropologue au CNRS. Elle a longuement étudié ce réajustement permanent de la sorcellerie et de la contre-sorcellerie à la vie contemporaine, particulièrement en Guinée-Bissau et au Sénégal.
Nous avons de la sorcellerie en milieu rural et les populations rurales, ce sont ces mêmes populations qu'on retrouve en milieu urbain, puisqu'il y a une migration qui est quotidienne ou alors ponctuelle, soit pour faire du commerce, soit pour aller se soigner en ville, etc., etc. Donc, c'est pas deux univers étanches, le milieu urbain et le milieu rural. Les personnes continuent à voir leur famille en milieu rural. Les contacts persistent. Effectivement, on pourrait se dire, avec le milieu urbain maintenant, la scolarisation, etc., pourquoi les personnes continuent à avoir ce type de croyances ? Eh bien, en fait, la tradition, elle est sans cesse réinventée, créée, et ce n'est pas quelque chose de figé, mais quelque chose qui est en perpétuelle évolution. Donc, les personnes qui se retrouvent en milieu urbain se retrouvent avec de nouveaux problèmes, effectivement, des problèmes de concurrence professionnelle, des problèmes de scolarité ou bien d'autres problèmes plus liés à l'univers industriel, etc. Et pour répondre à ces questions-là, évidemment, ils se basent sur ce qu'ils connaissent déjà, donc leur religion d'origine, et cette religion peut être réinterprétée en milieu urbain. Et les problèmes se diversifient. Les problèmes se multiplient dans ces sociétés urbaines, puisque nous avons des sociétés qui, au départ, sont plutôt égalitaires. Donc, face à la réussite professionnelle de certains, et au contraire à l'échec d'autres personnes, les gens cherchent une explication. Pourquoi est-ce que telle personne réussit et pas moi ?
Parce qu'en fait, dans beaucoup de sociétés africaines, le mauvais œil, le fait d'avoir été envoûté ou d'avoir été pris à partie par un sorcier devient une explication à l'infortune, au malheur et au manque de chance.
Effectivement, c'est un système d'explication du malheur et de l'infortune. C'est une explication de la maladie. Il y a plusieurs formes de sorcellerie, mais effectivement, c'est au départ une personne qui est méchante, qui vous veut du mal et qui s'attaque à vous. L'attaque peut être soit de vous rendre très pauvre, soit de vous faire échouer à vos examens, soit de faire en sorte que vous tombiez malade ou alors de mourir. Mais l'explication est toujours à l'extérieur de l'individu. Si je suis malade, ce n'est pas de ma faute. Si je ne réussis pas, ce n'est pas de ma faute. C'est un sorcier qui m'a attaqué. Bon, évidemment, dès qu'on a une petite maladie, l'explication n'est pas automatiquement sorcière ou c'est pas parce qu'on a raté un examen que c'est automatiquement sorcier. Mais si j'ai beaucoup travaillé mon examen et malgré tout j'ai échoué, si je suis malade, j'ai été voir des médecins à droite à gauche et malgré tout je n'arrive pas à me soigner, je n'arrive pas à guérir, l'explication sorcière surgit. aujourd'hui, quand même, il y a un certain scepticisme qui peut se développer, notamment parmi la jeunesse. Certains disent, oh mais non, toutes ces histoires, on n'est pas sûr. Malgré tout, cette croyance se perpétue dans toutes les couches de la population, aussi bien les lettrés que les personnes qui sont illettrées. Lorsque la personne est elle-même touchée par le malheur, même s'il s'agit d'une personne qui a étudié, qui se dit catholique ou qui se dit musulmane, eh bien cette personne-là retournera, fera des kilomètres, prendra l'avion pour faire les rituels adéquats pour se soigner.
En fait, les dangers sont de plus en plus nombreux, puisque désormais, n'importe qui, tout le monde, votre voisin, votre collègue de travail, peut s'attaquer à vous.
Effectivement, il y a une multiplication des agressions, des sources d'agressions, ce qui explique également la multiplication des hôtels de lutte contre la sorcellerie, qui, loin de péricliter, se développent en nombre, et puis se développent géographiquement, c'est-à-dire que les hôtels Manja qui existaient en Guinée-Bissau, maintenant on en trouve au Sénégal, on en trouve ici en France, on en trouve également sur leur lieu de migration, puisque ces divinités, eh bien, elles sont portatives en quelque sorte, avec certains objets rituels, on peut transporter avec soi une divinité. La sorcellerie, c'est quelque chose qui a toujours existé depuis très longtemps et qui s'adapte, qui se réajuste de manière permanente au monde, qui évolue en même temps que le monde se transforme. La sorcellerie et la contre-sorcellerie se transforment aussi et s'adaptent aux nouvelles réalités sociales.
Les colonisateurs appelaient sans distinction sorcellerie l'ensemble des croyances et des rites des populations locales. Mais ces croyances ont persisté bien après l'implantation de l'islam et du christianisme. En milieu chrétien, les rites de délivrance des églises pentecôtistes par exemple, les prophètes guérisseurs et les rituels d'exorcisme en sont la marque flagrante. L'islam, quant à lui, admet la réalité de la sorcellerie et prévoit même les moyens de la neutraliser. Constant Hammès est remonté aux sources musulmanes les plus anciennes. Il s'est également penché sur les manifestations les plus actuelles de lutte contre le mauvais œil. Il a publié « Coran et talisman », un livre consacré aux pratiques magiques en milieu musulman.
L'islam ne refuse pas la réalité de la magie et de la sorcellerie. Le Coran le témoigne de façon très, très abondante, puisque le terme qui désigne la magie et la sorcellerie est très utilisé dans le Coran. Le prophète lui-même nous rapporte la tradition, a lui-même été ensorcelé.
Vous-même, vous faites une distinction entre magie et sorcellerie dans le monde islamisé.
C'est pas moi qui l'ai fait, ce sont les auteurs musulmans eux-mêmes. Et dès le Xe siècle, on fait une distinction entre la sorcellerie et la magie. La sorcellerie, on va la définir comme l'action d'un homme sur un autre homme ou sur un objet. Donc une action directe. Alors que la magie, par contre, sera définie comme l'utilisation de moyens intermédiaires. L'astrologie, par exemple, ou les textes sacrés du Coran, ou des chiffres, ou différents matériaux, pour arriver à une action efficace. Et en règle générale, la sorcellerie et le sorcier est condamné par l'islam. Le sorcier a des pouvoirs. Ces pouvoirs sont désignés comme étant des pouvoirs concurrents de ceux de la divinité, de ceux d'Allah. Et ça, c'est pas permis. Donc, par conséquent, le sorcier est quelqu'un de condamnable à ce niveau-là. Mais il est condamné aussi parce que c'est quelqu'un qui est malfaisant sur le plan social. Donc là, il y a une condamnation au niveau de la morale sociale, si on peut dire.
Une preuve de plus que l'islam ne nie pas l'existence de ces pratiques, c'est qu'il a conçu les moyens de s'en préserver.
Tout à fait. Ou bien, ça peut être effectivement des textes qu'il faut, des prières, des sortes de prières qu'il faut réciter X fois, à des moments donnés qui sont significatifs sur le plan du calendrier musulman, ou bien ça peut être ces mêmes textes, mais qui vont être écrits et rédigés de façon vraiment, alors là, très codifiée, très particulière et très, très précise, et qu'il faudra soit porter sur soi, soit poser à un endroit particulier, soit les laver et boire l'eau de ces textes, etc.
En Afrique, est-ce que selon vous, ces pratiques se sont superposées à la pratique de l'islam, ou est-ce qu'elles sont conçues en même temps que l'islam, elles sont arrivées avec.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'islam n'a rien chamboulé finalement au niveau du statut des différents personnels africains qui, avant l'islam, étaient féticheurs, sorciers, devins, etc. Toutes ces fonctions sont restées en place. Mais elles se sont concentrées dans un seul et même personnage qui est le représentant de la religion musulmane, hein, qu'on appelle le marabout de façon générale en Afrique occidentale, mais qui porte des tas de noms suivant les groupes ethniques et linguistiques. Donc ce personnage a récupéré les fonctions qui antérieurement dans l'Afrique plus ancienne étaient distribuées entre différentes personnes. Il a tout concentré entre ses mains, mais il continue à répondre aux mêmes demandes, mais cette fois-ci dans un langage qui est celui de l'islam et avec des pratiques qui sont évidemment relativement différentes. Alors ce qu'on peut quand même trouver, c'est tout à fait intéressant aussi, c'est de voir que des objets ou notamment des objets et des matériaux qui sont toujours utilisés dans des pratiques traditionnelles autochtones africaines ont été intégrés dans des pratiques magiques islamiques. Par exemple, quelque chose qui est tout à fait typique, on va trouver une corne d'animal qui va être portée dans un pendentif à côté de talismans écrits musulmans. Sur le même pendentif, on aura la corne, on aura des morceaux de bois et on aura du texte coranique, oui, qui va servir aux mêmes objectifs. Donc, ça montre d'ailleurs d'une certaine façon cette espèce d'esprit de tolérance, on peut appeler ça tolérance, ou d'ouverture, disons, qu'il y a ces sociétés africaines qui ont accueilli la magie islamique comme une magie parmi d'autres. Bon, une magie peut-être un peu supérieure.
Ce qui veut dire qu'en continuant ces pratiques, on est quand même, de toute façon, un bon musulman.
Ah, la question vraiment à ce niveau-là ne se pose pas. Les deux coexistent sans aucun problème.
Régler ses petits problèmes de la vie quotidienne, son ascension sociale, ses peines de cœur, sa vie familiale, tout ça, c'est des éléments qui ne sont pas pris en compte par les grandes religions qui, elles, se préoccupe plutôt du salut.
Oui, oui, tout à fait. Elle se préoccupe effectivement beaucoup plus de l'adoration de la divinité et d'un culte rendu à cette divinité plutôt que des problèmes effectivement quotidiens des fidèles.
Donc il y a encore de beaux jours pour ces pratiques dans le monde musulman, selon vous.
Le besoin de répondre à un certain nombre de questions, d'interrogations, lui, ne va pas disparaître. Ce conflit entre les pratiques prônées par les islamistes réformistes et les pratiques magiques plus traditionnelles, il y a un conflit qui est engagé là. Peut-être arrivera-t-on à des rituels un petit peu différents, mais finalement les modèles resteront quand même en gros les mêmes et le besoin ne disparaîtra pas, certainement pas.
Dans le sillage des émigrés de l'Afrique de l'Ouest, les marabouts sont arrivés en France, de plus en plus nombreux à partir des années 70. D'abord cantonnés dans le cercle étroit des foyers de logement des travailleurs immigrés, ils en sont rapidement sortis et ils ont conquis une clientèle de plus en plus diversifiée. Ce sont des personnes à la recherche, comme partout ailleurs dans le monde, d'une explication à leur malheur et qui espèrent y mettre un terme. Et là encore, sorcellerie et contre-sorcellerie ont fait la preuve de leur grande souplesse quand il s'agit de s'inscrire dans des contextes culturels différents de leur milieu d'origine. Liliane Kuzinski s'est attachée à décrire et à comprendre ces marabouts ouest-africains installés en région parisienne.
La clientèle s'est énormément étendue à Paris et d'ailleurs c'est quelque chose que les marabouts ont voulu eux-mêmes parce que moi j'ai travaillé sur les éléments de publicité et donc dans le début des années 80 j'ai trouvé des annonces de marabouts pour soins de guérison et problèmes relatifs à l'infortune en turc, en portugais, en tamoul, en anglais, en arabe, etc. Et c'est une chose qui continue. Eux-mêmes ont dès les débuts, briguer très vite une clientèle étrangère. Et ça s'était fait déjà dans la réalité, puisque de bouche à oreille, d'Africain dans un foyer, à Antillais dans un foyer, à copain européen, etc., de bouche à oreille, cette clientèle, et par proximité aussi, s'est très vite étendue à une population extrêmement variée.
Alors, ils ont dû adapter leurs pratiques, j'imagine. On ne peut pas faire les mêmes rituels et les mêmes incantations ou proposer les mêmes solutions de contre-sorcellerie à un Portugais, à un Antillais, à un Breton ou à un Sénégalais.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le travail maraboutique, travail étant le mot exact employé par les marabouts, c'est traduit du wolof, donc dans le travail maraboutique, il y a plusieurs phases. Disons qu'il y a des phases qui sont en relation directe devant le client, et d'autres qui concernent le marabout lui-même, par exemple la rédaction du talisman ou bien les prières nocturnes qu'il fait, etc. Donc ce qui s'est transformé, ça ne vous étonnera pas, c'est les phases de ce travail qui sont en relation directe avec le client. C'est-à-dire la phase de divination, les techniques divinatoires se sont modifiées pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est bien connu qu'à Paris, les choses doivent aller vite. Or, il y a par exemple une procédure divinatoire qu'on appelle en arabe le listihar, qui nécessite pour le client de revenir deux fois. C'est pas possible à Paris, tout le monde est pressé. Donc cette technique qui est un des fondements de travail maraboutique est passée au second plan à Paris vis-à-vis de techniques plus rapides. Par exemple le jet de kori qui normalement est interdit dans l'islam, mais bon, c'est cette pratique que certains même marabouts ont appris à Paris pour faire vite. Deuxièmement, la question de ce qu'on peut appeler la naturalisation des pratiques maraboutiques à Paris. Eh bien il a fallu à certains marabouts apprendre les tarots pour se mettre au diapason, si vous voulez, des voyants ordinaires. Il y a une autre phase du travail maraboutique qui s'est beaucoup transformée, c'est la phase qu'on appelle le sacrifice. Parce que souvent, en Afrique, s'il s'agit d'un sacrifice sanglant, pas forcément un mouton, hein, mais un coq, certains marabouts ont même renoncé à ça à Paris. Donc, ce qu'on peut constater, c'est une sorte de spiritualisation du sacrifice. C'est-à-dire qu'on dit aux sacrifiants, donc aux clients du marabout, de sacrifier même ne serait-ce qu'une feuille de papier, en mettant toute l'action du sacrifice, non pas sur le geste lui-même, non pas sur l'objet lui-même, mais sur l'intention.
Mais en même temps, parmi les clients, il y a désormais des gens de culture chrétienne, européens.
Enfin, les marabouts sont assez doués pour pratiquer une espèce d'œcuménisme. Donc ils savent très bien établir des équivalences entre ce qu'ils savent de la culture. Bon, par exemple, vous avez dit chrétienne, donc chrétienne de leurs clients. Par exemple, Marie, la Vierge Marie, bon, les marabouts savent très bien que Marie et Mariam, qui existent dans le Coran avec un rôle tout à fait différent, on peut établir des équivalences entre les deux. Ou par exemple, ils savent très bien établir une équivalence entre ce qu'on appelle en arabe les djinns, qui est une cause essentielle de malheur, et puis le bon ange ou le mauvais ange, l'ange gardien, bon, etc. Tout ça, ils savent très bien jouer aussi du vocabulaire. Il y a tout une adaptation du vocabulaire.
Alors, à quels besoins répondent-ils auprès de ces clients qui sont de plus en plus différents et qui viennent d'horizons culturels de plus en plus variés ?
Moi, je dirais que les besoins ne se sont pas énormément transformés. J'en prends deux exemples. Bon, les histoires d'amour, dont on dit que les marabouts s'en sont fait en France une spécialité, au point que certains s'appellent amourologues. Voilà. Bien, en fait, les talismans d'amour sont quelque chose qui date du Xe siècle. Donc, il y a une parfaite continuité, au contraire, entre cette pratique maraboutique très ancienne et l'actualité. Autre exemple, la réussite commerciale. C'est quelque chose qui, en fait, agite le monde de la magie. Là aussi, c'est quelque chose de très très ancien. On peut très bien vouloir actuellement faire venir un marabout pour que ça réussisse, son agence de voyage et que prospère, que pour avoir beaucoup de clients, etc.
Donc on peut dire en continuité, tradition et adaptation à la modernité.
Adaptation dans la forme du rituel, dans le vocabulaire, oui, c'est tout à fait ça.
C'était Religion du Monde, Francine Quentin, réalisation Patricia Lecomte, à la technique Thomas Ferrière.